VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Média d'accord, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Tunisie, décès du président Béji Caïd Essebsi ce jeudi à l'âge de 92 ans. Le chef de l'État est mort quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs hier et à quelques mois seulement de la fin de son mandat. Premier président démocratiquement élu du pays en 2014, trois ans après la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali, Béji Caïd Essebsi était le plus vieux chef d'État en exercice dans le monde après la reine Élisabeth d'Angleterre. Il était revenu sur le devant de la scène après une longue carrière en politique à la faveur du printemps arabe en 2011. La Tunisie est le seul des pays touchés par les contestations du printemps arabe à continuer sur la voie de la démocratisation. Mouvement de contestation au Soudan, le conseil militaire au pouvoir dans le pays a annoncé mercredi avoir arrêté un général, plusieurs membres du service national de renseignement et de sécurité ainsi que des dirigeants politiques pour avoir fomenté ce que les généraux à la tête du pays qualifient de coup d'État déjoué le 11 juillet. Les détails avec Eki Abadou.
Le 11 juillet, une tentative de coup d'État a été déjouée au Soudan, a annoncé le jour même le Conseil militaire. Cette instance au pouvoir après un coup d'État le 11 avril ayant mené à la chute d'Omar el-Béchir avait alors précisé que 12 officiers, dont 5 à la retraite, avaient été arrêtés. Mercredi, les militaires ont indiqué que les détenus seront interrogés et présentés devant la justice pour avoir aidé le retour au pouvoir de l'ancien régime du parti du Congrès national, selon le communiqué cité par Souna. Nouvellement nommé chef d'état-major des armées, le général Mohamed Othman Al Hussein a confirmé ses arrestations lors d'une allocution à la télévision d'État. L'échec du coup d'État le 11 juillet était intervenu alors qu'une rencontre entre des représentants du Conseil militaire et des meneurs de la contestation se tenait à Khartoum pour finaliser les termes d'un accord sur la transition. Le 17 juillet, une déclaration politique a été conclue entre les deux camps, entérinant le principe d'un partage du pouvoir pendant la future période de transition.
Au Niger, importante saisie d'armes à feu à l'entrée de Niamey, la capitale. Une dizaine de kalachnikovs et des pistolets automatiques ainsi que leurs chargeurs ont été retrouvés sur un individu mercredi dans un bus en provenance du Mali. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Selon des sources de VOA Afrique, c'est aux environs de 16h30 temps universel, ce mercredi 24 juillet 2019, que la saisie est opérée sur un individu de nationalité nigériane au poste de contrôle de Bangoula à l'entrée ouest de Niamey. 11 kalachnikovs et 7 pistolets automatiques, chacun avec son chargeur et un fusil mitrailleur, dissimulés dans des sacs de maïs transportés par un bus en provenance de Gao au Mali. Le bus est alors escorté au commissariat du 1er arrondissement communale de la ville de Niamey, l'individu mis aux arrêts et une enquête ouverte. C'est une des importantes saisies d'armes ainsi opérées à Niamey, mais beaucoup de citoyens se posent la question sur les conditions dans lesquelles le bus a pu traverser deux départements de la région de Tillabéri qui sont tous sous état d'urgence depuis 2018 du fait de la situation sécuritaire. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, en République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui que s'achève la campagne électorale pour les 7 postes du bureau définitif du Sénat. 2 candidats sont restés en lice pour la présidence de l'institution. Alexis Tambwe Mwamba du FCC, le Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila, et Modeste Bahati Lukwebo, un rebelle de la même famille politique qui a été exclu. Quelle analyse faire avant cette élection prévue le 27 juillet? Eddy Sango a joint à Kinshasa, l'éditeur du quotidien indépendant La Prospérité, Marcel Ngoyi.
En termes de supériorité numérique, on peut considérer qu'a priori, c'est M. Alexis Thambwe Mwamba qui pourrait l'emporter. Mais comme en politique, rien n'est acquis d'avance et que chaque sénateur doit exercer son libre arbitre entre les candidats, c'est possible en ce moment-là qu'on puisse nuancer cette analyse en offrant à chaque sénateur la possibilité de se définir par rapport à l'avenir. Chacun d'eux a présenté un programme, chacun d'eux a un poste. chacun d'eux a une vision en ce qui concerne la gestion du Sénat, le vote de loi et consorts. Alors, chaque sénateur, parce que le vote est à bulletin secret, donc c'est possible que chaque sénateur se détermine. On peut considérer que la montée de l'autre candidat, qui est aussi un ancien de l'autre côté, relève d'un miracle si jamais il y arrivait, parce que renverser la tendance, ça doit être vraiment un grand coup si jamais lui Bahati l'emporte.
Vous parlez de M. Modeste Bahati qui a misé plutôt sur la corde sensible en lançant un appel en brandissant les côtés moraux, la bonne gestion et beaucoup d'autres. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut l'aider dans ce sens?
Ça devient aussi un problème d'intérêt politique immédiat. Si le FCC avait offert à Bahati la possibilité d'être le seul candidat du FCC, Bahati ne serait pas en train de faire le gros dos ou en train de se développer, de prendre l'autonomie comme ça se fait aujourd'hui. Donc, c'est un problème de poste. Ça dépend de la façon dont chacun va le bloquer. Mais tel que ça se présente a priori, ce n'est pas facile de bousculer les tendances parce qu'il y a l'implication et la mainmise assez visible de l'ex-président de la République qui, visiblement, s'implique pour que son poulain, que son candidat préféré, puisse l'emporter.
À la législature passée, il y a eu un miracle comme ça avec Léon Kengo Wadundo qui était un outsider mais qui a été élu.
En son temps, l'ancien président était encore en fonction et à l'époque, il avait peut-être minimisé l'enjeu. Mais tel que ça se présente aujourd'hui, il a pris ce dossier à mettre depuis un peu plus longtemps. Je dis qu'il faut que les gens même scénario puissent se répéter.
Comment analysez-vous les désistements du troisième candidat, parce qu'il y en avait trois, au poste du président du Sénat?
Oui, bon, le troisième candidat a choisi de désister pour des raisons qui sont propres, mais il a expliqué qu'il déversait ce qu'il pouvait avoir encore comme aura du côté d'Alexis Tambemba. Bon, c'est un problème de stratégie, un problème de positionnement, c'est possible, mais là, je veux sa propre carte. Hein.
On a vu une situation assez similaire dans les Sankourou pour l'élection du gouverneur où l'Assemblée provinciale est majoritairement du FCC, mais un indépendant qui a été élu.
Non, il n'y a pas de similitude parce que le cas de Sankourou a commencé par être un cas judiciaire et il y a des candidatures comme celle de Lambert Mende, quelqu'un qui a été pendant longtemps porte-parole du gouvernement et que c'est possible que le vote soit un vote sanction. Les préparatifs qui ont été mis en mouvement démontrent, si déjà en était encore, que l'ancien président, il tient comme à la prunelle de ses yeux. Il pourrait peut-être même lui-même être dans la salle ou alors il se le dira tout à partir de son sujet de Kinyakati.
Marcel Ngoyi, l'éditeur du quotidien indépendant La Prospérité à Kinshasa en RDC. Corne de l'Afrique, en Somalie, au moins 6 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans un attentat perpétré mercredi par des militants islamistes Shebab contre les locaux de la mairie de Mogadiscio, la capitale. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
2 adjoints du maire et 3 directeurs de service ont perdu la vie dans l'attaque. 6 autres personnes ont été blessées, dont le maire de Mogadiscio. Ils sont tous en soins intensifs, selon le ministre de l'Information, Mohamed Abdiyarir Mareye. Selon une source sécuritaire, un kamikaze serait entré dans le bâtiment où avait lieu une réunion et se serait fait exploser. Les forces de sécurité enquêtent sur ce qui s'est passé et fourniront des détails plus tard, a indiqué le ministre de l'Information. L'attaque a été revendiquée par les Shebab affiliés à Al-Qaïda. Selon leur porte-parole, Abdulaziz Abdou Moussab, il visait James Swan, le représentant spécial de l'ONU en Somalie, qui rendait visite mercredi au maire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Actualité américaine maintenant, ici à Washington, l'ancien procureur spécial Robert Mueller a déclaré au Congrès que son enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 n'a pas disculpé le président Donald Trump des soupçons d'entrave à la justice. Mais Donald Trump, lui, a toujours soutenu le contraire et dit haut et fort qu'il a été exonéré par le rapport de M. Mueller. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Robert Mueller a expliqué qu'une politique du ministère de la Justice interdit l'inculpation d'un président en exercice. C'est pourquoi, a-t-il dit, je cite, « Dans nos conclusions, nous avons décidé que nous ne dirions pas si le président avait commis un délit. C'était notre décision et ça le reste. » Fin de citation. Mais M. Mueller a affirmé en réponse à une question que le président pourrait être inculpé une fois qu'il aurait quitté la Maison-Blanche. Il s'est cependant refusé à sortir du cadre de son rapport, répondant par des « oui »,« non » ou « correct », renvoyant sans cesse à ce document. En réaction, le président Trump a dit que M. Mueller avait livré l'une des pires performances de l'histoire du pays et n'avait rien apporté pour étayer ce canular ridicule, cette chasse aux sorcières. M. Müller a fait valoir que son enquête n'était ni une chasse aux sorcières, ni un canular.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.